au réseau Cogeco. Mario Langlois rencontre.
Aujourd'hui, à Mario Langlois rencontre, il y a 25 ans, la 24e conquête de la Coupe Stanley par les Canadiens de Montréal.
Le Canadien qui remporte sa 24e Coupe Stanley de son histoire. Et c'est l'équipe qui a gagné le plus de championnats dans le monde du sport. Toute discipline comprise. C'est terminé. Victoire du Canadien de Montréal qui élimine les Kings en 4 victoires contre une défaite.
Oh, que ça nous fait voyager dans le temps. Ça fait 25 ans, tout ça, ces moments-là. Il y a 25 ans qu'une équipe canadienne n'a pas rapatrié la Coupe ici au Canada. Et vous auriez dû voir les visages des trois gars qui m'accompagnent en studio. Ils étaient, eux, au cœur de l'action pour cette conquête avec les Canadiens en 1993. Et j'ai vu des sourires se dessiner lentement sur leurs visages. Peut-être qu'il y avait des frissons en dessous également des chandails et des chemises. Patrice Brisebois, salut.
Salut, Mario.
Benoît Brunet, bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Jacques Desgnaux. Salut Jean-Jacques.
Salut.
Qu'est-ce que ça vous fait juste d'entendre un petit extrait sonore comme ça? Je sais que votre DG, Serge Chavard, à qui on l'a fait entendre hier, a admis avoir ressenti un frisson qu'il ne l'avait pas réentendu souvent.
Ben, ça rappelle des souvenirs incroyables. À l'occasion, je vois la séquence des dernières secondes qui s'écoulent pour gagner la Coupe Stanley. Des fois, je me vois sauter en plein milieu de la patinoire. Moi, j'ai sauté de la ligne rouge à Patrick Roy parce que tous les joueurs s'étaient ramassés. Je me disais, c'est peut-être pour ça que j'ai fait autant de squats dans ma vie pour sauter. C'est incroyable, mais souvent, les personnes vont manquer de mots hein, quand ils vont passer au travers d'une conquête de la Coupe Stanley comme ça. C'est très dur à expliquer. C'est un exploit incroyable, un exploit d'équipe incroyable. Puis, je suis content d'avoir fait partie.
Benoît?
L'âge nous fait réagir aussi, parce qu'à 49, c'est différent que quand je l'ai gagné à 23 ou 24. Là. Je ne sais plus exactement, là, c'était à 23 ou 24. Là, mais... Parce que quand tu le gagnes, là, tu te dis, je vais en gagner au moins 3 autres, 4 autres. Là. Fait que c'est sûr que ce moment-là, quand tu le revois à 49 ans ou à 41 ans ou à 42 ans, tu te dis, c'est incroyable ce qu'on a réussi à faire cette année-là, parce que c'est la naïveté d'être jeune. Là. Moi, je pensais que c'était juste un début, là, pour on n'était pas en gagner 4-5. Fait que là, de l'avoir gagné une, d'avoir eu l'opportunité au Forum de soulever la coupe, de revoir ces moments-là, c'est exceptionnel.
Patrice?
Bien, oui, moi, j'ai eu des frissons. Parce que c'est spécial. C'est tellement des beaux souvenirs. Et je suis d'accord avec Ben, parce que, écoute, moi, j'avais gagné 2 médailles d'or au championnat mondial junior, 2 coupes du président. Meilleur défenseur au Canada. Puis là, tu te dis, hey, là, je gagne la Coupe Stanley. Moi, j'avais 22 ans, je m'en souviens. J'étais le plus jeune joueur de l'équipe. C'est ça que je me disais. Je me disais, je sais, je vais en gagner d'autres. Mm. C'est vrai que, qu'est-ce que Benoît dit, c'est vrai, on est un peu naïf parce que on est jeune, on a gagné, puis c'est correct, puis on va en gagner d'autres. Puis malheureusement, c'est jamais arrivé. Puis c'est ça qui tient l'athlète de jouer le plus longtemps possible parce que tu cours toujours après ce rêve-là. Tu te dis, je l'ai gagné, mais maudit que j'aimerais ça le regagner pour encore plus l'apprécier. Puisque je trouve, à l'âge que j'avais, ça a été un été extraordinaire. Mais d'après moi, je ne l'ai pas peut-être apprécié autant qu'un Rob Ramage, on avait quand même une équipe jeune, là, ou un Denis Savard. Tu comprends? C'est des gars qui étaient quasiment à la fin de carrière.
Ou un Raymond Bourque quand il était à gagner au Colorado.
Exact, là, Mario. Alors, ça a été... malheureusement, ça a été la seule, mais tout extraordinaire.
On parle tellement, tu sais, quand on est né au Canada, au Québec, puis qu'on a grandi avec le hockey, tu sais, la Coupe Stanley. Puis tu sais, ce que ça a fait, on dit que ça change une vie, l'étiquette de gagnant. Puis justement, la question que je vous pose, les gars, parce que dans vos cas, tous les trois, puis il y en a d'autres sur cette édition-là, ça a été votre seule Coupe Stanley. Mm-hmm. Mais il y en a un paquet de grands joueurs de hockey qui l'ont pas gagné, la Coupe Stanley. Et je voulais savoir, qu'est-ce que ça représente? Vous avez été à même de le mesurer, là. Tu sais, 25 ans plus tard, peu importe vos carrières individuelles, que ça a toutes été des belles carrières, mais vous avez, là, tu sais, comme un général d'armée là qui arrive là à une cérémonie là, à White House, à la Maison-Blanche, vous avez les galons de la guerre, vous l'avez gagné, vous autres. Vous êtes étiqueté gagnant de la Coupe Stanley. 25 ans plus tard qu'on parle de ça aujourd'hui, en vous identifiant à ça, qu'est-ce que ça vous procure comme satisfaction, sensation, commentaire?
Je pense que, premièrement, c'est rare que tu peux faire partie d'un groupe comme ça au cours d'une carrière de 15 ans, de 20 ans, peu importe la longueur de ta carrière, c'est rare que tu vas avoir accès ou tu vas passer au travers de la première, de la deuxième, de la troisième série pour finalement dire « j'ai une chance de gagner la Coupe Stanley ». Ça peut arriver une fois. Moi, ça m'est arrivé deux fois. avec les Flyers de Philadelphie. J'ai perdu en finale Game 7 à Edmonton. Puis là, j'avais les Brad Marsh, puis les Brad McRaymond, puis les Mark Hall qui pleuraient tout. Mais comment se fait que les gars de 33, 34 ans pleurent tout? Mais moi, à 22 ans, je ne me rendais pas compte que ça n'arrivait pas souvent. Cette affaire-là, j'ai eu la chance de le revivre à Montréal. Fait que c'est très rare que tu peux faire partie, d'un noyau de joueurs qui vraiment veulent s'aller jusqu'au bout, qui est chef d'orchestre en leur coach. Puis,
Il y a du timing d'être à bonne place au bon moment. Il y a du timing. On comprend aussi. Mais quand tu y as contribué, puis que là, ben c'est ça ton étiquette, Benoît, d'être identifié comme un gagnant. Tu sais, on parle beaucoup de 93, c'est Patrick Roy. Il y a des noms qui reviennent tout le temps, Jacques Demers, mais... J'ai pas joué dans la Ligue, mais je le sais que c'est un sport d'équipe. Puis tous les sports d'équipe, c'est en équipe que tu gagnes. Et vous étiez des membres à part entière de cette équipe-là.
Moi, c'est ce que je retiens, parce que même si j'étais jeune à ce moment-là, c'est différent ce qu'on vit en 2018 ou en 2017. Mais ce qui était différent aussi, c'est qu'on a vécu une retraite fermée. Pour moi, c'était exceptionnel. Ça aussi, j'étais jeune. Puis vivre une retraite fermée, là, c'est exceptionnel.
Des gros sacrifices.
Mais c'est quelque chose de différent que j'ai jamais revécu après dans ma carrière, que ce soit ailleurs, même à Ottawa quand j'étais en Syrie. Là, puis j'ai passé la majorité de ma carrière à Montréal, là, mais je l'ai jamais revécu. Là. Tu t'en vas pratiquer. Après le match, tu t'en vas au restaurant. Puis après ça, tu t'en vas à l'hôtel. Puis tu retournes chez vous. Après le match, gagne, perd. Puis après ça, c'est resté, c'est la roue tourne. Puis on a fait ça pendant 4 séries. Là. Fait que, tu sais, le concept d'équipe, puis dire que les gars se tiennent, là, ben, on était dans les restaurants à chaque soir, ou la majorité, on était dans les hôtels à soir, dans les restaurants. Après ça, c'était dans les hôtels, dans l'avion, dans l'autobus, sur la route, à la maison. On a vécu quelque chose qu'on vivra jamais de notre carrière. Fait que le concept d'équipe, on parle beaucoup de la bague individuellement quand tu rencontres tes amis, plein de monde que tu connais, là, mais c'est le concept d'équipe qui a brimé dans cette conquête-là, que ce soit les jeunes ou les vieux. C'est pour ça qu'on l'a gagné.
C'est un rappel, parce que dans les réponses, de façon différente, ce que vous exprimez, c'est ça. C'est oui, nous autres, moi, je vous le pointe individuellement, t'es un gagnant, mais vous autres, c'est le rappel que vous faisiez partie d'un groupe spécial.
Toujours une équipe. C'est toujours l'équipe. Puis, quand je pense à l'édition 93, tu sais quoi, Mario, on n'était peut-être pas les meilleurs. Tu sais, t'avais Pittsburgh, t'avais Québec, t'avais vraiment des bonnes équipes. Boston aussi avait une maudite bonne équipe. Et la première série, on avait, si on se souvient bien, en 93, on avait très mal terminé la saison. Mm-hmm. Je pense avec 4 ou 5 défaites de suite.
Québec en partant, qui était le club en devenir.
Et pour nous, on sait que les joueurs du Canadien, faire face aux Nordiques, c'est comme une Coupe Stanley, parce que tu sais que si tu bats les Nordiques, tu vas passer une belle été. et tout de suite là, c'est un peu la Coupe Stanley. Et encore là, ça a mal débuté.
Hein, deux défaites.
Ouais. Et par la suite...
Une en prolongation, cependant, quand même.
Oui, hein? oui. Et on bat les Nordiques. De l'autre côté, Boston se fait éliminer. Là, après ça, les Pingouins, là, tu dis, hey, ça, c'est notre chance, là. Tu sais, des fois, oui, c'est le concept d'équipe. Oui, Jacques Demers a fait un travail extraordinaire. Mais il faut que les étoiles soient alignées aussi. Est-ce qu'il y a eu des blessures majeures aux joueurs importants? Le seul, on était peut-être tous blessés, mais on était capable de jouer. Peut-être le seul, c'était Denis Savard. Mais tous les pièces maîtresses de l'équipe étaient tous là. Tu sais, en série éliminatoire, c'est long, là. C'est long, les séries, là. Alors moi, quand je regarde ça, c'est Jacques Demers, pour moi, a fait un travail extraordinaire. Je sais que chaque joueur, il faut qu'il accepte son rôle. OK? Puis, tu sais, des fois, tu veux jouer l'avantage numérique, mais tu sais quoi, peut-être la jouera pas parce que lui, il est plus hot présentement. C'est pas grave, en autant qu'on gagne. Et c'était surtout ça, l'esprit de famille. Et Jacques a fait, c'est pour ça que je dis qu'il a fait un travail extraordinaire, parce que Jacques était capable de vendre ses idées à ses joueurs.
Notre leadership était solide.
Oui.
Il se manifestait comment, les gars? Comment, tu sais, du fameux leadership, c'est un mot qui veut dire tellement de choses, puis en même temps, des fois, il y a des intangibles là-dedans.
Je pense
là.
Que tout le monde amène le leadership à sa façon. Je pense que si on atteint la Ligue nationale, on est tous des leaders. Et peut-être c'est leader. Benoît, on a tous atteint la Ligue nationale, mais il y en a qui vont être vocales, il y en a qui vont le faire sur la patinoire avec une bataille, avec une mise en échec. Tout le monde.
Bloquer des lancers,
tous les détails comptent pour atteindre la finale de Coupe Stanley puis gagner la Coupe Stanley. Tous les détails comptent, que ce soit un lancer bloqué, quelqu'un qui a dit quelque chose dans la chambre, un Mario Roberge qui joue pas, mais qui essaie de motiver les joueurs puis de faire en sorte qu'ils prennent soin d'eux. Tout le monde a son rôle, comme Patrice l'a dit plus tôt. Puis tout le monde a le même but.
Mais comment tu fais pour que tout ça prenne ensemble? C'est comme la guimauve d'un Rice Krispies. Là. J'aime ton image que vous êtes tous des leaders parce que oui. Vous êtes tous le fruit d'une réussite individuelle d'avoir atteint le rêve que tout le monde avait quand il était jeune. Nous autres, l'avaient atteint. Maintenant, de tomber dans le groupe qui fait de la magie, où les astres s'alignent, là, comment tu fais en sorte que tout le monde joue pour la même cause, qu'au lieu que tout le monde se regarde, que tout le monde regarde dans la même direction?
Mais je pense que c'est de reconnaître que tout le monde dans le club a son rôle, qu'il y a Patrick qu'il faut qu'il arrête les rondelles, qu'il y a Benoît qu'il faut qu'il tue les punitions, qu'il y a Patrick qu'il faut qu'il fasse sa job sur l'avantage du mérite, puis que tout le monde, mais moi j'ai du respect pour lui qui bloque des lancers, lui qui fait que l'avantage numérique va bien, Jean-Jacques Daigneault qui joue contre les gros joueurs de l'autre club la plupart du temps. Je pense que tout le monde a du respect pour qu'est-ce qui amène au club. Puis,
ça se gagne, ça, Jean-Jacques. Ouais, ça tombe pas du ciel.
Il y a du momentum aussi. Il y a beaucoup de momentum. Je pense que les deux matchs qu'on a perdus contre les Nordiques, puis ensuite la série qu'on a gagnée en 6, je pense que ça nous a fait passer au travers d'un peu d'adversité, beaucoup d'adversité.
Oui, beaucoup, oui.
Ça a fait de nous qu'à un moment donné, on disait on va être dur à battre. Parce que là, on a commencé à jouer en supplémentaire. Je pense qu'on avait confiance en notre système de continuer à jouer de la façon qu'on jouait de la première à la dernière minute, puis on savait qu'on gagnerait à la fin.
C'est vraiment intéressant d'entendre ça. Patrice, je dois t'arrêter. On va faire une courte pause, mais garde ça là, direct là. On prend juste là. Après la pause, vous êtes en compagnie de membres de l'équipe gagnante de la Coupe cette année, la dernière à avoir été gagnée ici au Canada et évidemment à Montréal. Il y a 25 ans. On revient tout de suite.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mario Langlois, Rencontre.
Nous soulignons ce soir aux amateurs de sport le 25e anniversaire de la dernière conquête d'une Coupe Stanley par une équipe canadienne, évidemment par les Canadiens, en 1993, avec Jean-Jacques Daigneault, Benoît Brunet, Patrice Brisebois. Patrice, j'ai dû t'interrompre juste avant la pause. On prend exactement où on était rendu.
Moi, qu'est-ce que j'aimais de cette équipe-là? Il y avait un beau mélange. Beau mélange de vétérans, beau mélange de recrues qui s'en venaient. Et écoute, Serge a fait, t'es allé chercher Brian Bellows avant la saison. Après ça, Vincent Danfousse. À la date limite des échanges, Rob Ramage, Gary Lehman. C'est des atouts qui fait que si jamais on est des blessés, on a de la profondeur. Mais on a pu voir cette année-là les jeunes arriver. Paul Di Pietro. Après ça, un Gilbert Dionne. Un Kevin Adler aussi, un Sean Neal.
Jesse Bélanger,
exactement, JJ. Puis Ben n'était pas vieux non plus. Alors, c'est pour ça que quand on regarde l'équipe en général, moi, j'ai seulement 22 ans, je suis le plus jeune joueur de l'équipe, mais je suis bien encadré. Moi, mon partenaire, là, c'est JJ Daigneault. C'est mon vétéran. Ça fait déjà 10 ans qu'il est dans la Ligue nationale. Puis là, il me dit à moi, là, il dit, Breezer, on va jouer comme ça, comme ça, comme ça. Puis à 22 ans, qu'est-ce que tu fais, Mario? T'écoutes, puis t'agis.
Ben, apparemment qu'ils écoutent pas tous, mais je suis content que tu l'aies fait, Patrice, par exemple.
Oui, mais c'est comme ça.
Dans ce temps-là, t'avais pas le choix.
Exact. Regarde, t'avais pas le choix, Mario.
C'était comme ça que
t'étais sorti
quand
du groupe.
Je parlais tantôt du leadership.
Quand t'écoutes pas, Ben, il arrivait quoi? Juste, tu précises que t'avais pas le choix.
Ben, quand je dis qu'on avait pas le choix, c'est écoute, il donnait pas un coup de marteau sur la tête, mais il y avait une fierté de regarder nos vétérans aussi au niveau du vestiaire. Moi, tu vois, j'ai débuté les séries en première ronde contre les Nordiques. Je jouais avec Jesse Bélanger, Jean-Jacques a bien fait de le mentionner, puis Gilbert Dionne. Puis j'ai terminé après ça avec Carbo et Ed Ronan, parce qu'on avait changé un peu notre dynamique là, au niveau des joueurs qui étaient dans l'alignement. Puis le quatrième trio, c'était Paul Di Pietro avec Gary Lehman puis Gilbert Dionne qui en a gagné la Coupe. Fait qu'il y a eu plein de changements, plein d'ajustements, mais au niveau du leadership, moi, je pense que c'est ça, respecter le gars. Mais le gars qui saute sur la glace, il a les paroles au niveau du vestiaire, mais aussi l'implication du joueur sur la glace. Je me souviens, Carbo était blessé, tu sais, il avait des blessures au genou. Des fois, il sautait pas toujours sur la glace dans les entraînements, même si on n'a pas eu beaucoup. Mais c'est ça, tu sais, t'embarques avec Carbo, tu le vois se défoncer, puis tu sais qu'il est mal en point. C'est la même chose avec Mike Keane, avec Jean-Jacques, avec Rob Ramage, qui était content d'être là. Fait que toi, à 22, 23 ans, tu regardes ça, tu dis, écoute, j'ai pas le choix, là. On chaude sur la glace, moi, il va. Puis quand ça marchait pas, je peux te dire que ça, tu sais, Denis Savard, Carbo passait pas par quatre chemins. Patrick, là, pour nous dire que ça allait pas bien. Puis Jean-Jacques, dans ce temps-là, qui était au terrain, tu sais, tu suivais, puis tu jouais, puis that's all.
Mais moi, une chose, puis je reviens à ça, tout à l'heure. Comment ça se construit, tout ça? Tu sais, entre Jacques Demers qui arrive au début de la saison, puis les boys, we're gonna shock the hockey world, puis que le monde le regarde presque en riant, puis tout ça. Puis, tu sais, tu crois-tu quand tes résultats positifs d'en face pour devenir un gagnant de la Coupe Stanley, ou tu crois parce que là, oups, tu as gagné, là, tu y crois plus? Tu sais, à quel moment, comprenez-vous la nuance en ce que je veux dire, les gars? Tu sais, JJ, t'es encore entraîneur dans le monde du hockey. Tu veux que le Jello prenne, là?
Être entraîneur, c'est être un peu vendeur aussi.
Oui.
Et moi,
mais on peut faire semblant d'acheter.
Je suis dans le coaching. Je coach des joueurs, puis je leur dis, Moi, je vois ça en toi. Si toi, tu le vois pas, mais moi, je vois ça en toi. Je pense que tu devrais aspirer. Tu veux jouer comme ça. T'es un peu vendeur. Le head coach, qui était Jacques Demers, mais il arrive au début de la saison. Puis il dit, les gars, we're gonna shock the hockey world. On va gagner la Coupe Stanley cette année. Comme de raison. Mais il y avait les Nordiques, il y avait les Pingouins. Il y avait des bons clubs cette année-là. Puis il y avait les Bruins qu'on n'avait pas passé au travers durant, je pense, 3-4 saisons.
Mais tu portes ça à rire quand t'entends ça comme joueur ou t'as envie d'y croire?
Tu y crois.
Mais faut y croire.
Moi, je crois.
Mais c'est automatique que tout le monde dans ce vestiaire-là croit ça. Ou il y en a qui embarquent rendu au match 62. Il y en a qui embarquent en deuxième ronde. Les gars, là, dans la vraie vie, là. Mais dites-moi que c'est un groupe où tout le monde a embarqué le jour 1, vraiment.
Non, je pense que non. Bonne question. Parce que moi, j'étais douteux.
Ouais.
Personnellement, j'étais douteux. Aucun entraînement, que ce soit Jacques Demers cette année-là ou Serge Chavard, on avait un meeting, pour dire les gars. Parce que je pense qu'on avait le club, puis il y avait peut-être moins de parité à ce moment-là dans la Ligue nationale. Serge Chavard, où c'est Jacques Demers qui l'a fait en 92-93, Serge Chavard disait cette année, les gars, on veut gagner la Coupe Stanley. C'est pas juste on fait une série, on gagne la Coupe Stanley. OK, ça marche, on a un bon club, tout ça. Cette année-là, pour moi, personnellement, c'était une des années où je me disais, il me semble qu'il y a des bons clubs. Mais, comme je le disais plus tôt, on joue les Nordiques, on perd les deux premières games, on gagne les quatre prochaines, on n'a plus du momentum. C'est un club qui va gagner la Coupe Stanley, habituellement, s'améliore à toutes les séries. Non seulement le club dans son système, mais le joueur individuellement. Pour un joueur qui n'a jamais vécu ça, moi, je trouve ça sensationnel. T'es rendu dans la finale de la Coupe Stanley, puis je pense que t'es capable de retirer le plus haut de ton potentiel. Je sais pas si vous êtes comme ça, les gars, mais moi, je me dis, Caroline, je suis tombé bon. C'est vrai, je t'achète même. L'équipe est donc bien bonne, on joue bien à l'intérieur de notre système, on est infaillible. Je pense qu'il y a un momentum qui grandit au travers d'une série, puis c'est comme une machine qui roule.
Et là, tout le monde grandit ensemble, puis là, oui. vous regardez, puis là, vous faites partie de quelque chose de spécial, vous en rendez compte. Mais moi, ce que je continue de vouloir gratter, c'est t'arrives comment, là, c'est sûr que c'est des victoires, là, mais, tu sais, en cours de route, là, en saison régulière, comment série, il faut-tu que t'en ramènes des gars dans la chambre, ou c'est comme, je reviens à ça, c'est tout le monde qui suit, qui y croit, ou?
Oh oui. Rendu là, oui.
Je parle l'année, là.
Dans l'année qui précède. Ouais, mais il y a toutes sortes de choses, ça dépend de quel, c'est quoi ta position aussi dans la formation, puis, c'est quoi ton rôle? T'sais, moi, j'ai pas joué tous les matchs cette année-là. Fait que c'est sûr que j'ai bien beau y croire, mais il faut que je m'établisse aussi pour jouer à tous les matchs, là. Tu sais, il y a plein de choses, là, qui rentrent en ligne de compte. Mais tu sais, Carbo, il y avait pas ce stress-là. JJ non plus. Ben, Patrice, tu sais, moi, Paul DiPietro, puis Gilbert, là, on se battait pour notre poste.
Je l'avais.
Ben, peut-être. C'est vrai qu'il y avait, je sais pas, mais.
Raconte, Ben, Patrice, qu'est-ce que tu voulais dire?
Pareil, parce que là, faut que tu t'établisses comme joueur de hockey aussi. Fait que, en même temps, d'être jeune, faut que tu fasses ta place. Fait que, tu sais, j'y croyais, là. Tu veux gagner, mais en bout de ligne aussi, tu penses à ta job, là. Ouais. Faut que tu t'établisses comme un joueur de hockey, ligne nationale, et pas juste un gars qui peut jouer de temps en temps, qui va aller faire un séjour dans la ligue américaine. C'est pas facile, ça, non plus.
Là. Moi, c'est vrai qu'est-ce que Ben dit, parce que je l'ai mentionné, j'avais seulement 22 ans. Et moi aussi, je n'ai pas joué. J'ai joué 71 matchs cette année-là, et j'ai sauté mon tour. Parce que souvent, Jacques Demers n'était pas content de mes performances. Puis là, il y avait Sean Hill, puis il y avait Donald Dufresne, puis il y avait une couple de gars qui voulaient donner aussi une couple de parties. Mais ceci dit, quand là, Jacques, il ne faisait pas jouer, là, j'étais en maudit, là. Puis je dis, oh, ouais, si tu penses que tu vas m'enlever de l'alignement, je vais te prouver que j'ai ma place là. Puis je voulais toujours faire la différence.
C'est une compétition à l'interne.
Toujours. Moi, dans mon cas, oui. Parce que j'étais pas établi, comme Benoît disait. C'était comme, hey, t'as un travail à faire, puis il faut que tu le fasses. Mais moi, dans mon cas, c'était plus que ça. Je dis, moi, je veux venir le meilleur. Tu comprends? J'ai des ambitions. J'ai seulement 22 ans, mais j'ai dit, je sais, j'ai le potentiel et les qualités, mm-hmm. de devenir vraiment un bon joueur dans la Ligue nationale pour le Canadien de Montréal. Mais, encore là, comme Jean-Jacques l'a dit, une année, c'est long. Il y a de l'adversité. Tu passes devant des choses. Puis c'est ça que tu t'apprends. Tu gagnes l'expérience et c'est comme ça que tu viens meilleur joueur.
Moi, je suis d'accord avec Jean-Jacques. Ça prend du momentum quand tu arrives en série. T'as beau y croire en saison régulière, il y a plein de choses. T'sais, les as alignés, là. C'est incroyable le nombre de points qu'on pourrait sortir probablement de la série Québec, Buffalo, Long Island puis Québec. Là. T'sais, c'est tout.
Chaque série est différente.
Chaque série est différente, puis à chaque série, il y a quelqu'un qui contribuait d'une différente façon. Tu sais, je me souviens dans la série contre Long Island, Carbo marquant
Stéphane Lebeau.
Kirk Muller, Paul DiBietro a connu des grands matchs. On s'en va à Los Angeles, qui marque les deux buts, deux matchs consécutifs en prolongation, c'est John Leclerc. Tu sais, tout le monde. Tu sais, si t'as pas l'ensemble du club qui contribue à sa façon. Des fois, c'est pas toujours sur la feuille de pointage, mais tout le monde a fait quelque chose dans les séries du début à la fin pour la soulever. C'est ça, une coupe cette année. Fait que t'as beau y croire avant que ça commence, là, mais si ça se produit pas, là, cette étincelle-là, en série éliminatoire, c'est impossible, t'as soulevé pas la coupe cette année. Puis là, j'ai pas parlé des arrêts de Patrick là-dedans. Moi, je me souviens, dans le match numéro 3, l'arrêt de la jambière de Patrick contre Scott Young, c'était déjà 1-0 pour Québec. Il avait passé en arrière du filet, excusez le terme l'anglicisme, là, mais le fameux wraparound, là, ouais. Il était revenu, là, puis Patrick avait sorti la jambe droite.
C'est moi qui
là.
Suivais Scott Young.
Ouais, mais il était vite, JJ.
C'est moi qui avait pas... Mon hockey était pas assez long, c'était moi qui était là.
Non, mais cet arrêt-là, là, je m'en souviens encore. Écoute, ça fait 25 ans, je m'en souviens. Ah ouais. À partir de ce moment-là, on a marqué le but, le but égalisateur. Je pense qu'on a gagné ce match-là 2-1 en prolongation.
Ouais.
Ouais. C'est ça qui est la série. C'est comme se baigner dans le sirop d'érable, les gars. Je sais pas pour nos auditeurs, mais entendre des histoires comme ça, celle de trois gars qui étaient membres à part entière, qui ont joué tous les matchs des séries en 1993, Patrice Brisebois, Benoît Brunet et Jean-Jacques Daigneault. C'est loin d'être fini. Encore une grosse demi-heure à passer avec eux. On revient tout de suite après la pause que voici.
Mario Langlois rencontre au réseau Cogeco.
Voilà aux amateurs de sport dans le cadre de ce spécial nous rappelant la conquête de la Coupe Stanley en 1993 par les Canadiens de Montréal en compagnie de nos invités ce soir. Très content de les avoir avec nous. Jean-Jacques Daigneault, Benoît Brunet et Patrice Brisebois.
Je trouve ça le fun de passer du temps avec des anciens coéquipiers comme Benoît et Patrice. Parce que moi, des fois, je trouve que j'ai pas assez absorbé des détails de la Coupe Stanley, mais je pense que j'ai seulement, je me rappelle seulement de choses différentes, comme Benoît dit le but de, pas le but, mais l'arrêt de Patrick contre Scott Young. Mais là, il me rappelle que c'était moi qui étais sur la glace contre lui. Puis tout le monde a une bonne mémoire, mais une mémoire pour des faits différents durant la finale de la Coupe Stanley. C'est comique, parce que ça fait 2 ans que je coach avec Kirk Muller. Puis Kirk Muller, il y a un petit bout de temps, on se parlait, puis il dit, JJ, t'en rappelles-tu quand on était joué à Los Angeles, on était souper dans un restaurant italien, c'était top notch, un bon restaurant. Tous les gars avaient eu un steak gros comme ça, là. Comme c'était 3 onces de steak, quelque chose comme ça. Puis quand on est revenu à l'hôtel, tout le monde s'est commandé un burger. Je dis, Kirk, où c'est que tu vas chercher ça, ces affaires-là? Moi, je me rappelle pas.
Mais toi,
tout le monde se rappelle des choses différentes. Celle-là, je m'en rappelais pas. Mais... je me rappelle que mon chambreur, avant qu'on parte pour la
c'était qui?
C'est Patrice. Je me rappelle que mon chambreur, quand on s'est levé le matin pour l'entraînement du matin, m'a dit, JJ, c'est incroyable comment t'as ronflé hier soir. Et j'ai dit à Patrice, Patrice, si on gagne hier soir, tu m'entendras pas pour les 3 prochains mois.
Ah, c'est tellement vrai.
Chaud des souvenirs.
Mais moi, je me souviens. Ça peut-être été le moment marquant dans cette, surtout la série contre Québec. Tu sais, on connaît tous Gilbert Dionne, comment il peut être bouffon, comment, tu sais,
c'était le king,
très bon animateur, puis je me souviens, après le deuxième match, il avait imité Serge, puis il avait imité Jacques Demers, puis ça avait tout détendu de l'atmosphère, puis là, tu dis, un joueur qui imite le directeur général, puis l'entraîneur. Mais Gilbert l'a fait juste justement pour détendre les joueurs, dire, hey, c'est juste une game de hockey qu'on s'en va
jouer. Quand il fait ça, là, c'est où?
C'est au souper d'équipe.
Ah ouais?
Tu sais, puis Serge, je me souviens de voir Monsieur Savard, là. Monsieur Savard, il rit, il en peut plus.
Il l'avait trouvé drôle, il n'arrêtait pas de trouver drôle.
Ben oui, tu sais. Puis l'autre moment, Mario, c'est Mario Roberge.
Ben ouais.
Mario Roberge, pour moi, écoute, tu sais, c'est un joueur qui, bon, c'est un bagarreur, mais c'est un joueur d'équipe. Puis tu sais, souvent, on pense peut-être un peu moins à ces joueurs-là, mais ils ont un impact extrêmement important, parce que c'est tout le temps, habituellement, les bagarreurs, c'est tout le temps les gars qui sont les plus aimés dans une équipe. C'est les gars qui ont le cœur gros aussi, comme la place. Puis Mario, c'était ce gars-là. Et on se souvient tous, hein, il avait été voir Jacques Demers, puis il avait dit à Jacques, Jacques, je veux juste faire le warm-up. Puis là, Jacques, il a dit, pourquoi? Il dit, j'ai vu Ron Extall dans l'échauffement, puis il a dit, il y a tout le temps une superstition, puis qu'il s'en va tout le temps dans le cercle du milieu. Il fait comme un rond avec son patin, puis il dit, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais m'habiller et je vais m'installer pendant toute la période d'échauffement. Je reste sur le point rouge.
Il n'a pas bougé de là.
Je te le dis, Mario, par la suite, Ron Extall n'a plus jamais été le même.
Moi, j'avais joué avec Ron 2 ans à Philadelphie. Puis moi, je me rappelle, on a perdu les 2 premières, gagné les 2, 3 et 4. Puis moi, je me rappelle quand j'étais à Philadelphie, on était en course pour gagner le trophée Jennings. Alors, les meilleurs buts comptent. Mm-hmm. Ron Extall puis Bob Froge, je pense. Mais Patrick, à Montréal, je pense que les Canadiens étaient comme 10 buts en arrière des Flyers. Mais Patrick avait fait un article dans le Journal de Montréal, tout un peu, pas arrogant, mais confiant. Il avait dit, on va gagner le trophée Jennings cette année. Il était 10 buts en arrière. Ron Extall avait vu ça dans le journal, puis il avait vraiment snappé. Et moi, j'étais dans la chambre, puis il n'utilisait pas les mots, mais il parlait de Patrick. Dans la série, quand on a commencé à gagner, j'avais conté l'histoire à Patrick. J'avais dit, écoute, il peut, si jamais tu as de la chance, peut-être de
faire piquer un peu.
Piquer dans le journal, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il va.
T'es bon là-dedans, toi, Patrick,
saisir, ouais. Quelque chose comme ça. Puis je me rappelle, Patrick, les journalistes lui avaient demandé, qu'est-ce que tu penses de Ron Extall? Il connaît toute une série. Puis Patrick avait dit, oui, il a dit, il goal bien, mais il gagne pas. Parce qu'il gagnait plus. On avait perdu des premières, puis on avait gagné les prochaines. Fait qu'il a dit oui, il joue bien, mais il gagne pas.
Ça prend du bagou pour dire ça pareil.
Beaucoup.
Hein?
Beaucoup. Ah ouais. Ouais, ouais.
Mais Patrick de l'autre côté, puis Max Starr dans notre filet. Puis... On se parle pas aujourd'hui, Mario.
C'est vrai.
Quand tu dis qu'il y a plein de détails, tu sais, Mario Roberge a été habillé 3 matchs dans toutes les séries.
Moi, l'autre chose rapidement, parce que je l'ai dans la tête, mais.
Ben oui, vas-y.
Ceux qui
on est là
parlent,
pour ça, Ben.
Ceux qui étaient près des Nordiques dans ce temps-là, tu sais, avec les années, on a parlé à bien du monde depuis ce temps-là. Puis, dans la saison, ce qui fonctionnait pour Québec, c'était Extall un match ou deux matchs, puis après ça, naît souvent, puis rapidement en relève. Tu sais, c'était pas comme Patrick à Montréal où Patrick pouvait en garder 7, 8, 9, 10 en ligne. Extall, c'était 2, 1, 2, 3 matchs, oh, faisait. Mais dans les séries, tu peux pas. Puis il y a beaucoup de gens à Québec qui m'ont dit c'est ce qui aurait dû arriver. Tu sais, après peut-être le deuxième ou le troisième match, première défaite d'Extall, le quatrième de revenir à Montréal avec Fizet pour lui donner une petite pause pour qu'il puisse retrouver son focus si on l'a jamais fait. Puis à partir de ce moment-là, comme Jean-Jacques l'a dit, tu sais, ça a décroché. Fait que finalement, c'était pas vraiment, en tout cas, il était pas pour moi un gardien numéro un qui était capable de prendre la pression comme Patrick était capable de le prendre à Montréal.
Est-ce que tu penses, Mario, que Pierre Pagé bien fait avec ses joueurs? J'ai rien contre Pierre Pagé, mais je pense pas qu'il était bien aimé par les joueurs. Et nous, le contraire, Jacques Demers, on l'aimait beaucoup. On était prêts à se défoncer, puis notre entraîneur. Alors, tu sais, souvent, quand on parle de détails, de dire, est-ce que l'entraîneur est important? Là, les gens vont dire, oui, il est important, mais les joueurs, il faut qu'ils performent. Mais j'ai toujours dit, si l'entraîneur respecte ses joueurs, c'est pas une question d'argent, c'est pas rien. C'est une question de dire, hey, moi, ce gars-là, il veut mon bien. Je vais lui donner tout ce que j'ai pour mon entraîneur.
Ce que je me souviens de ces années-là aussi, que c'était une mentalité complètement différente. Ce que Jacques a amené, là, on avait été à Londres. Ouais, puis, on a commencé à avoir des journées de congé le dimanche. Ça, c'était nouveau.
Ouais,
c'est tout le monde, là. Parce que moi, une journée, quand les gars avaient congé le dimanche avant, puis un entraîneur que j'ai respecté beaucoup dans ma vie, là, il y avait un documentaire dernièrement RDS, c'est Pat Burns. Mais les vétérans avaient congé, mais moi, j'étais sur la glace.
Ouais.
Ah, Brazil, tu te souviens, dimanche.
Ouais,
mais là, avec Jacques Demers, tout le monde avait congé dimanche.
Ouais. Un homme de famille.
Homme de famille. Quand je me pointais, que ce soit au forum, puis je sortais du salon des femmes, là, ils savaient le nom de ma femme.
Ouais, c'est...
Ils savaient le nom de toutes les femmes des joueurs.
Ouais. Ouais.
Fait que ça, c'est vraiment un changement de philosophie, de dynamique qui a fait en sorte que ça a soudé l'équipe aussi de ce côté-là, parce que là, tu te sentais pas à part de l'équipe. Le dimanche, là, t'étais avec ta blonde, puis t'étais en congé.
Ouais. Bon point, Benoît. C'est quand même que j'y pensais un peu plus tôt. C'est vraiment... Tous les clubs de la Ligue nationale disent on est une famille. Tous les sports professionnels, que ce soit le baseball, le football, ils disent qu'on est un esprit de famille. Mais c'est ça, Jacques... il savait que le monde derrière nous était très important à notre succès. La femme à Benoît, la femme à la blonde, la femme à Patrice, à ce moment-là,
c'était
important.
Pas commun ma dans l'hockey professionnel dans le temps, Jean-Jacques, ça, c'était pas quelque chose de fréquent?
Ça l'était peut-être, mais je pense que Jacques, il l'a amené à un autre niveau. Et moi, il arrivait à côté de ma femme, il dit « Jenny, comment ça va à l'école? » J'avais pas d'enfant, mais je suis sûr que Rob Bramage dit « Hey Rob, comment ça va? Comment va ta femme? Les enfants, ça va mieux à l'école? Ils s'ajustent-tu au français? » Puis on avait beaucoup de soupers d'équipe avec les femmes. À ce moment-là, quand on gagnait une série, ils sortaient tout le monde. Puis ils disaient, les femmes, vous êtes importantes, soyez patientes, voyez pas votre mari, on a la tête fermée. Mais en bout de ligne, ça va valoir la peine.
Jean-Jacques Desnoyers, Benoît Brunet, Patrice Brisebois sont avec nous. On s'est gardé le meilleur pour la fin. On arrive au moment de la conquête après la pause.
Mario Langlois rencontre au réseau Cogeco.
Nous voilà de retour avec nos invités. Nous soulignons la conquête de la Coupe Stanley il y a 25 ans par les Canadiens de Montréal en 1993. Jean-Jacques Desnoyers, Benoît Brunet, Patrice Brisebois. Les gars, la finale Los Angeles, bon, des flashs. Le bâton de McSorley, c'est-tu un game changer? C'est-tu vraiment... Oui, pour vous autres, tu sais, les Kings mènent 1-0 dans la série. On est dans le match numéro 2, on est à domicile. On pourrait perdre nos deux premiers matchs à la maison. Jean-Jacques?
Et moi... Personnellement, moi, j'ai joué deux périodes cette game-là avec un bâton illégal. Mon bâton était illégal parce que tout le monde a des coupes différentes. Patrice, je pense que Patrice, sa coupe commençait plus dans le talon. Benoît, peut-être... moi, j'avais il appelle ça un toe curve. Ouais. Une coupe du bout du bâton parce que j'étais plus un passeur. Ça prenait un bon bâton pour manier. Mais à ce moment-là, à chaque fois qu'on avait un bâton avec... une courbe au bout du bâton, un toe curve, le bâton était illégal automatiquement. Ouais. Ça prenait pas grand-chose, était illégal. Alors moi, je jouais deux périodes avec mon bâton illégal, puis ensuite, je prenais un bâton qui était légal, fini la troisième période, dépendamment de la situation. Ce match-là, je l'ai fait. J'ai été prendre mon quatrième bâton dans la rack, puis j'ai joué avec un bâton quasiment à droite, que j'aimais pas vraiment jouer avec. Mais je savais que je me fais pas prendre.
Il y a une histoire derrière le bâton. C'est qui l'avait identifié, le bâton, puis qui avait passé le mot à Jacques?
Je pense qu'il y avait Carbo.
Moi, j'avais fait.
Ouais. Carbo, Kirk.
Il y avait aussi Robitaille, je pense, qu'il avait une grosse coupe. Lui, il avait changé son bâton.
Luc?
Moi, j'avais vu qu'il avait changé son bâton. McSorley avait gardé le même, lui.
Moi, ça a été un point tournant parce qu'on manquait de zip. C'est bizarre à dire. Hein. Finalement, ils ont pris cette décision-là. Puis Éric Desjardins qui marque 3 buts dans un match.
Incroyable.
C'est exceptionnel.
Mon côté, Mario, c'est que quand on a éliminé les Islanders, bon, dans l'Ouest, c'était les Kings et les Maple Leafs. Là, tu dis, t'imagines-tu une finale Montréal-Toronto?
Ouais.
Pat Burns.
Ça aurait été extraordinaire aussi. Et de l'autre côté, tu dis... Los Angeles, Wayne Gretzky, le plus grand joueur dans l'histoire. Les Kings ont gagné et par la suite, commence le premier match à Montréal et on perd le premier match.
Un but 3 passes Gretzky dans le premier match.
Exact. 1, Et je m'en souviens que Carbo était pas trop content après le match. Et qu'est-ce que fait Wayne Gretzky par la suite? Absolument rien. Parce que Carbo l'a dit, il dit, il l'a fait son match, il l'offre plus. Hein, Benoît?
Oui, parce qu'on n'avait pas joué contre Gretzky le premier match. Puis là, Carbo est allé voir Jacques pour lui dire de moller. Fait qu'on s'est retrouvés, ils sont suivants, les deux cocos, là. Moi, Ed Ronan, let's go, on y va. Ben, c'est Carbo là, qui l'a demandé, là. Il gérait bien Carbo. Carbo, c'était pas un gars qui parlait beaucoup, là, mais quand il parlait, t'écoutais, puis tu comprenais ce qu'il avait à dire. Puis ça a été un défi incroyable, c'est vrai qu'il a changé peut-être l'historique aussi de cette finale-là.
Vous avez eu l'opportunité de remporter la Coupe Stanley devant votre public en 1993. Donc, la défaite dans le premier match a quand même mis la table pour cette possibilité-là. Les victoires en prolongation, les buts de John Leclerc. Parlez-moi des sentiments, des souvenirs que vous avez encore par rapport à ces dernières secondes de jeu-là, là, à la conquête de la Coupe Stanley au Forum, les gars.
Le temps, je pense que le temps descend pas assez vite. Hein. T'es en troisième période, tu mènes, il reste 6 minutes. On dirait que les secondes descendent pas assez vite. Puis je pense que c'est comme ça que j'ai vu ça. C'est fantastique de gagner devant ta famille, devant tes partisans. Une adrénaline incroyable de gagner devant sa famille à Montréal. Surtout pour nous trois qui avons grandi à Montréal, avec les Canadiens de Montréal. Moi, mon idole, c'était Guy Lafleur. J'habitais à Villemort. Je venais voir des matchs à partir de l'âge de 13, 14, 15 ans. J'achetais des billets dans l'ancien forum stand-up. Puis je suis venu souvent, fait que c'est eux qui ont fait en sorte que j'ai joué au hockey jeune, que j'ai eu un rêve. Les Canadiens de Montréal m'ont donné un rêve de voir devenir joueur de hockey. Mes idoles, Guy Lafleur aussi. Puis 15 ans plus tard, quand tu as 27, 28 ans, tu réussis à gagner la Coupe Stanley, puis d'accomplir ce rêve-là d'enfance.
C'est des moments où vraiment que tout tombe, là, toute l'émotion tombe.
Moi, je sais que Benoît il a pleuré parce qu'à la place Belle, notre place de pratique à Brassard, il y a des photos dans les corridors. Puis à chaque jour, je vois Benoît pleurer. Je sais qu'il a pleuré.
Non, mais tu sais, la fatigue aussi, là, c'est la fatigue.
L'émotion.
Moi, l'émotion, mais tu sais, faut pas oublier que moi, les années 70, comme Jean-Jacques vient de le mentionner, tu sais, les Guy Lafleur, Jacques Lemaire, Larry, Serge Chavard, Guy Lapointe, tous ces gars-là. Là, puis là tu regardes 86, puis. L'année 86, j'ai été repêché par le Canadien en deuxième ronde. Fait que déjà là, c'était comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive, là? Parce que, tu sais, tu te vois ticu à 10 ans, là, puis après ça, tu t'es rendu à 22, 23 ans, puis tu lèves la coupe au Forum. C'est un rêve de jouer pour le Canadien quand tu es jeune, puis
ben oui.
T'évolues dans les petites ligues à Montréal, puis comme JJ l'a dit, là, tu regardes le Canadien à télé, tu vas au Forum les voir, puis là, un jour, t'es sur la glace avec Patrick Harouet et Carbonneau, qui ont gagné en 86, puis t'as ton tour de la soulever. Fait que, tu sais, c'est tout ça qui fait que l'émotion ressort, puis le trop-plein, puis les parents, puis ils t'ont épaulé, puis ils sont là pour ta carrière, parce que sans tes parents, la majorité des joueurs de hockey sont pas là, parce qu'ils payent, puis ils voyagent, puis tout ça. Fait que c'est tout ça qui est ressorti, mais de la soulever, là, tu te dis, Calvin, est-ce que c'est que ça se passe là?
T'en souviens du moment?
Je m'en souviens, certain. Je m'en souviens, puis tu sais, des fois, tu te pinces, parce que c'est vrai que c'est arrivé, là. Moi, ça me prend au moins 48 heures, parce que j'étais assis même... Tu sais, ça va tellement vite, là, la
48
finale,
heures avant de dégriser, ou...
Non, ça a pris, je te dirais, plus qu'une semaine. Mais là, tu sais, un moment donné, là, après 2-3 jours, là, t'as le temps de t'asseoir, là, parce que ça a été vite, la parade, oui, la reine Elisabeth, là, d'un coup, tu t'es assis, tu dis, comme, j'ai-tu vraiment gagné la coupe? J'ai-tu vraiment soulevé ça au Forum? C'est un rêve de jeunesse.
Hey, les gars, avez-vous déjà vécu un plus gros party que cette année-là, après la conquête?
Écoute, bon, premièrement, après le match, ça a été, bon, l'émeute, hein? On est resté au Forum jusqu'à 4-5 heures du matin. Ouais. Ils voulaient pas qu'on sorte. Puis là, tu regardes les images, tu dis, ben voyons donc, ça pas...
Qu'est-ce que vous vous disiez en voyant ça?
C'est seulement des meilleures choses qui est arrivées pour nous autres, qui est un peu de... De brosse camarade dehors. Là,
ça nous a permis de rester ensemble encore et de profiter.
Ça permet au club, après avoir soulevé la Coupe cette année, de rester ensemble pendant quelques heures, d'avoir un repas, de prendre une coupe de bière, de... Puis ensuite, je pense qu'on en a quitté vers toi, comme Patrice disait, vers toi, quatre.
Pas besoin d'aller ailleurs.
Ouais, c'est ça, au lieu de tout le monde partir chacun de leur côté. Comme de raison, il y a la fatigue, les émotions. Ouais. On a toutes les joues creuses à la fin d'une Coupe cette année. Moi, je me rappelle, je suis retourné chez moi. Vers 2-3 heures du matin, puis j'ai écouté les nouvelles en boucle toute la nuit. Je me suis même pas couché, juste écouté. Voyons donc, on a gagné. On a gagné. J'ai juste, je n'étais pas à m'endormir, c'est tous les émotions.
Moi, un des plus beaux moments, là, il y en a plein, là. Tu sais, le souper avec les employés, deux jours après, la parade. Mais un des plus beaux moments, là, on l'a vécu, je pense, dans le vestiaire du Forum, parce qu'il y avait tellement de monde, que ce soit au niveau des médias, c'est pas comme aujourd'hui, là. Mais le vestiaire du Forum, c'était petit, là.
Ouais.
Je sais pas qui avait pris l'initiative, là. C'était pas moi, parce que j'étais un des plus jeunes, là. Mais il y avait plein de monde du tu sais, les stars, là, de Céline Dion, telle là, puis Renan Gélil, puis je me souviens, Marjo, qui était populaire dans ces années-là. Il y avait plein de monde. Puis là, il y a quelqu'un qui est allé voir quelqu'un, c'est un de nos leaders, c'est sûr, là, puis qui a dit, on vide le vestiaire.
Ah, c'est Carbo, non?
C'est Carbo, je pense. Ben, je me souviens pas, tu sais, parce que là, ça fait longtemps.
Je pense qu'il me l'a déjà compté.
Mais le vestiaire s'est vidé, puis finalement, là, puis la famille était pas là non plus, là. C'était juste les boys, puis les trainers, puis il y a des coachs qui rentraient, puis qui sortaient, là. Puis là, on a eu le temps de prendre des photos, j'ai encore ces photos-là à la maison. Ça a été un des beaux moments aussi, parce que là, tu sais, ça a comme, tu sais, il y avait trop de monde. Tu sais, on était pris, là. C'était étouffant, tout ça. Puis là, les boys, on vient de gagner une coupe, là. Puis là, on a pas, ça peut être une heure et demie après, là. Là, on était tout seul dans le vestiaire, puis on a pris des photos, on a bu dans la coupe. Ça, c'est pour moi, là, c'est un des plus beaux souvenirs.
Oui, tu as raison, Benoît.
Oui, t'as tellement raison. C'est, tu te pinces. Je te jure, Mario, tu te pinces. Tu te dis, ça m'arrive. Puis là, tu te dis, la première affaire, tu te dis, bon, je suis un gagnant. Et moi, je me souviens, la journée du match, je disais, à soir, je vais être champion. La Coupe Stanley. Puis là, tu te dis, il faut gagner. C'est à soir, ça se passe. Puis.
Ça fait partie de l'histoire.
Ouais.
C'est arrivé, Patrice.
Mais c'est la dernière. Mais on va en vivre un autre.
J'espère.
Ah oui.
On va en vivre un autre un jour.
J'espère,
tant cas, parce qu'il y a des gens, moi, qui me disent, Mario. Là,
ben, ça va prendre du temps d'après moi.
Je sais. Non, mais il y a des gens.
Il y a
des gens qui me disent que. Tu vas être content. Non. J'ai hâte, moi.
Je vais rester avec vous.
J'ai hâte, j'ai excité. Tu sais, comme ancien. Ah, tu dois être content, là. Vous êtes les derniers de l'avoir gagné. Non. J'ai 49 ans. Là, je vais en vivre une autre, mais
on veut l'en vivre.
Comme ancien joueur.
Jean-Jacques, Benoît, Patrice, les gars. Juste merci. Merci pour 93, parce qu'on en parle encore. Puis quand le Canadien rassemble autant de Québécois autour d'une performance sportive, ben c'est marquant pour pas juste les amateurs de hockey, pour une société. Fait que c'est pour ça qu'on a hâte de leur vivre un jour, qu'une équipe canadienne leur vive un jour, en espérant que ça passe par le Canadien. Merci les gars.
Merci de nous avoir reçus.
Merci.
C'était... continuera ça. On fera le party de 93, quasiment.
Pourquoi pas?
Pas d'émeute. Merci, les gars.
Merci.
J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. Et hey, bah, ça, ça, ça vous rappelle des souvenirs, cette chanson-là, les gars? Ça vous rappelle?
Ah, ouais,
les gars?
Oui.
L'avez-vous chanté ensemble dans le bus, dans l'avion?
Hein? Ça jouait avant tous les matchs.
Ouais. Vraiment?
Ouais. Avant tous les matchs. Avant qu'on embarque sur la glace, c'est, c'est la chanson qu'il jouait dans le vestiaire.
Dans le vestiaire?
Oui.
Ça vous détendait? Y a-tu des gars qui chantaient? Ça arrivait-tu? Non, c'était...
Non. Mais je dirais 2-3 minutes avant qu'on embarque pour le warm-up. Puis quand on embarquait dans le warm-up, je ne m'attends pas à jouer encore.
Oui.
Je jouais sur la glace.
Oui. Là, je vous fais parler jusqu'au refrain, parce que c'est le refrain, j'imagine, qui embarquait. Puis c'est là toutes les paroles significatives. On va se laisser là-dessus, les gars.
Yes.
Encore merci.